Bienvenue à tous dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Cette semaine, je vous invite place Saint-Germain sur le chantier du métro, à quelques jours de la clôture des fouilles archéologiques menées par l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Laurent Beuchet, ingénieur de recherche à l'INRAP, est notre guide pour retracer l'histoire du quartier sur plus de 15 siècles. En route.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je viens de chez Radio Campus Rennes, j'ai rendez-vous avec monsieur Laurent Beuchet, qui est archéologue.
Je vais vous l'emmener à lui.
Merci.
Laurent Beuchet, je travaille pour l'INRAP. Moi, je suis ingénieur de recherche à l'INRAP, qui est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Donc, il y a un institut qui est spécialisé dans les recherches archéologiques avant les travaux d'aménagement, ici donc sur le métro de Rennes. Et je suis rattaché à un laboratoire du CNRS, qui a une unité mixte de recherche du CNRS qui est basée à Rennes. Alors voilà, on est là depuis le mois d'août. Au mois d'août, il faisait beau. Là, aujourd'hui, il fait un petit peu moins beau. On a quelques giboulées qui traversent le ciel de temps en temps. Et c'est pas forcément toujours agréable. Les archéologues sont sur la brèche sur le projet de la deuxième ligne de métro depuis 2008. Ça a commencé par une étude documentaire qui a été commandée à l'INRAP par la SEMTCAR qui construit le métro pour connaître la position éventuelle du rempart et d'une porte qui était mentionnée place Saint-Germain. Donc il y a eu toute une enquête de fait sur le quartier Saint-Germain à partir des archives et une enquête de terrain également, des visites de caves, etc. pour essayer de localiser au mieux ce rempart. Suite à cette étude, en 2009, on a fait un premier sondage sur la voirie. C'était en juin, peut-être que les gens s'en souviennent. On est intervenu sur la porte elle-même. Donc les collègues historiens avaient localisé une probable porte, le portail Saint-Germain qui était mentionné dans les textes. Ils avaient localisé cet emplacement et exactement, mais à quelques centimètres près de là où on pensait trouver la porte, on l'a trouvée effectivement. Donc elle est en assez mauvais état, elle était très très dégradée, elle a été construite dans les années 1440. Elle a été rasée au XVIIe siècle, deuxième moitié du XVIIe siècle. Il y avait des maisons qui s'étaient installées sur ces vestiges, donc les fondations étaient recoupées par toutes sortes de tranchées, des caves, etc. Donc il n'en reste que des fondations en assez mauvais état. Mais quand elle était debout, elle devait ressembler aux portes mordelaises, en fait. Donc on est exactement sur le même type de construction. Donc la question qui se posait à cette époque-là, c'était d'éventuellement intégrer les vestiges à la station, c'est-à-dire mettre en valeur cette porte dans le cadre de la création de la station, en fait, pour des raisons techniques, pour des raisons de conservation également des vestiges qui étaient finalement pas si bien conservés. L'idée a été abandonnée. Et donc on est revenu 2 ans après, en 2011, une fois que le projet avait avancé, que la station était plus précisément localisée. Là, on a fait un second diagnostic archéologique sur la place elle-même, donc en se limitant à l'emprise du parking pour ne pas trop impacter la circulation. On a pu vérifier des choses qui avaient été déjà mises en évidence par l'étude documentaire, c'est-à-dire la présence d'un quartier urbain, à l'intérieur de la ville close à partir du XVe siècle, des maisons qu'on n'avait pas particulièrement bien datées, qu'on pensait pouvoir remonter au Moyen-Âge, et l'ensemble ayant été détruit par un bombardement en 1944. On avait également mis en évidence dans ce diagnostic, par le biais des sondages géotechniques, donc des carottages très profonds dans le sol qui vont servir au creusement du tunnel. Nous, on s'est intéressé au premier mètre et on s'est rendu compte qu'il y avait 50 cm à 80 cm de niveau noir, de niveau tourbeux, conservé sous les remblais plus profondément que les maisons, des niveaux qu'on n'avait pas pu aller chercher à l'appel mécanique pour des raisons de sécurité, tout simplement. Donc on a fait dater ces niveaux qui renfermaient beaucoup de végétaux. Donc on a prélevé des végétaux à la base, au milieu et au sommet. Et par le carbone 14, on a mis en évidence qu'on avait un embourbement ou un entourbement, je ne sais pas comment on pourrait dire, enfin en tout cas une séquence de sédimentation qui allait, hors de mémoire, du 9e au 13e siècle.
Comment on s'y prend lorsqu'on est archéologue et qu'on veut démolir une place publique finalement ? Est-ce que ça suit une méthode de travaux publics classique où on démolit tout simplement ou est-ce qu'on prend des précautions particulières et on adopte une méthodologie, on va dire, de travaux publics mais bien adaptée ?
On a appris à utiliser les mêmes outils, les mêmes engins que dans les travaux publics, mais nous on terrasse pas, on fouille. C'est là toute la différence. Parfois on va plus ou moins vite en fonction des niveaux dans lesquels on est. On utilise des données, des diagnostics également pour savoir un petit peu à l'avance où l'on va. Alors les premiers mètres, les mètres de voirie, enfin les premiers centimètres plutôt, les centimètres qui correspondaient à la voirie ancienne de la place Saint-Germain, on les a enlevés assez vite à l'appel mécanique. Bon, une partie, enfin tout ce qui était bordure, tout ça avait déjà été enlevé par les entreprises préalablement. Nous on est intervenu dans un chantier qui était déjà en activité. Ça faisait déjà plusieurs mois que le génie civil, donc les entreprises qui construisent la station, étaient sur place pour mettre en œuvre des parois moulées, donc des parois de béton qui descendent une trentaine de mètres de profondeur, donc jusqu'en même plus bas que le fond de la station quand elle sera terminée. Et nous, on a fouillé à l'intérieur de cette boîte plus ou moins étanche. Donc on a commencé par enlever les premiers centimètres de voirie et très vite, ce qu'on appelle le décapage archéologique. Donc ce sont des terrassements qui se font plus ou moins rapidement. Sous surveillance toujours des archéologues, on nettoie au fur et à mesure, on comprend, le but c'est d'aller vite, mais d'être certain que ce qu'on enlève c'est uniquement des niveaux qui sont stériles pour nous, et on s'arrête sur le sommet des vestiges, alors que ce soit les premiers murs, le sommet d'arasement des murs, ou sur les premiers sols, ou parfois, c'était le cas ici, sur les niveaux d'incendie de certaines maisons qui s'étaient effondrées en cours d'incendie, et dans lesquelles on avait l'ensemble des objets de la vie quotidienne qui étaient piégés. Il y a une des maisons au nord qui a brûlé et qui s'est effondrée. On ne sait pas exactement, on pourra faire des recherches pour savoir qui vivait dans cette maison précisément. On sait que c'était une cordonnerie. Les gens ne sont pas revenus chercher ne sont pas venus fouiller les décombres pour rechercher des choses. On avait là dans les décombres, des chandeliers qui étaient posés certainement sur le manteau d'une cheminée, qui se sont effondrés, et on avait les deux chandeliers qui étaient posés au sol, mais bien parallèles l'un à l'autre. Donc on imagine vraiment bien la paroi qui s'est effondrée d'un bloc. On avait des assiettes, des piles d'assiettes qui s'étaient effondrées, qu'on a retrouvées empilées, cassées mais empilées. Et puis dans l'arrière boutique, toute une collection d'outils de cordonnerie qui avait été abandonnée. On a également retrouvé une pendule ou un réveil dans les décombres de la maison et une montre à gousset. Et les deux étaient arrêtés approximativement à la même heure, qui doit correspondre à l'heure de l'incendie.
Alors c'est ça, c'est très rapidement que vous êtes arrivé sur des vestiges, assez rapidement en grattant sous la surface du sol, vous êtes arrivé sur les vestiges donc des bombardements de 1944, donc ça s'est passé au mois de juin 1944. Est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter un peu, ou nous décrire peut-être à quoi ressemblait le quartier à l'époque, quelle était sa vie, est-ce qu'on peut reconstituer un peu tout ça ?
Alors le quartier, c'était un quartier assez mélangé. Hein. Il y avait des maisons, les maisons c'était des maisons à pans de bois pour la plupart, un petit peu comme celles qu'on voit aujourd'hui rue Saint-Georges. Hein. On était sur ce type de place du Champ Jacquet au Rallier du Bâti, enfin dans ces quartiers-là. On avait un front de rue qui descendait devant le portail à l'actuelle de l'église Saint-Germain. Donc la place n'existait pas. On avait une rue un peu élargie qui descendait devant l'église et puis un front de 8 maisons de mémoire qui bordaient cette rue à l'est, et puis à l'arrière on avait des arrière-cours assez semblables à celles qu'on peut avoir sur les arrière-cours rennaises un petit peu partout, avec des constructions qui avaient gagné les arrière-cours au cours du 19e et du début du 20e siècle, donc avec l'adjonction de toilettes, de salles de bain, de choses comme ça, de sanitaires qui étaient venus se raccorder sur les maisons du 17e.
C'était étonnant ça pour vous, parce que dans le communiqué de presse que le laboratoire a fait circuler auprès de la presse, vous précisez que donc les logements étaient dotés d'un certain confort matériel. On se doute que si c'est précisé de la sorte dans un communiqué de presse, c'est que ça a dû peut-être vous étonner.
Oui, pour nous, c'est un peu étonnant. On a l'habitude de fouiller des maisons, déjà pas toujours très très bien conservées. Enfin, c'est vrai que des maisons à pans de bois incendiées, quand l'incendie a eu lieu au Moyen-Âge, on imagine bien qu'il n'en reste finalement pas énormément de choses dans le sol. Là, l'incendie était beaucoup plus récent. Et donc, oui, c'était étonnant pour nous de trouver des robinets, un compteur d'eau, d'avoir des installations électriques. On avait les interrupteurs en bakélite, tous n'avaient pas fondu. Donc, on avait des sols en carrelage, moi, que j'aurais mis beaucoup plus tard que les années 40. J'aurais peut-être mis début des années 60 ou quelque chose comme ça. Et donc, on avait des maisons qui avaient, oui, un certain confort matériel en 1944. On est en ville, une ville importante déjà. Rennes est une ville relativement grande déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les gens ont un certain confort de vie qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans les campagnes à la même époque. Peu de fermes d'Ille-et-Vilaine ont... Alors, l'électricité commence à arriver, mais l'eau courante, il faudra attendre dans certains secteurs la fin des années 50. Oui, le bombardement a été relativement violent. Alors, c'est sans doute un seul avion en fait qui a manqué sa cible, qui a largué ses bombes un peu à l'aveuglette. Et donc, il y a toute une ligne de bombes qui sont tombées en fait en prenant en écharpe la rue du Vau-Saint-Germain et donc le quartier Saint-Germain. Alors, toutes les bombes n'ont pas explosé puisque on a eu aussi la mauvaise surprise d'en retrouver une sur le chantier. Et il y en avait une seconde qui avait été retrouvée également lors des déviations de réseau au pied de l'église. Il y a quelques bombes qui ont explosé, qui ont mis le feu au quartier. Et ensuite, le quartier s'est embrasé. Donc là, on est au sud de l'emprise de la Fouille, dans l'axe de la rue Saint-Germain. Là-bas, tout au nord, les quelques sépultures qui sont en fin de fouille, en phase d'achèvement. Et donc là, on est en train de terrasser, en fait, on est au niveau naturel pour retrouver le profil des berges de la Vilaine, donc tel que ça pouvait être au Moyen-Âge. Et on va passer sous un empierrement qui correspond donc à la mare du 10e siècle pour retrouver le niveau du chemin qui passe dans son vallon là-bas. Donc on voit à l'ouest, en fait la zone est terminée depuis maintenant assez longtemps. C'est toute une zone dans laquelle il n'y a pas eu de sédimentation de végétation. On n'a pas ces niveaux noirs et on est donc là sur les terrasses alluviales. Donc des terrains beaucoup plus rocailleux. Enfin, on a des niveaux d'argile et de gravier qui succèdent. Et c'est sur ces terrains un peu plus secs que les tanneurs se sont installés. Donc on a des fosses qui ont été creusées, que l'on aperçoit, et qui servaient au tannage des peaux. Donc nous, on n'a qu'une toute petite partie vraisemblablement de cette activité et de la chaîne opératoire. Et on a également des fossés qui évacuent les déchets, qui évacuent les eaux résiduelles vers la Vilaine. On commence quand même à, bon, quelques jours de la fin de la fouille, à avoir une idée assez claire de l'histoire du quartier, heureusement. On est sur le lit majeur de la Vilaine, c'est-à-dire qu'on est sur des zones qui sont fréquemment inondées ou inondables. Il faut imaginer une sorte de plaine alluviale avec des prairies inondables, avec des petits reliefs qui correspondent en fait à des paléochenaux. Donc des zones très anciennes. Il y a un paléochenal qu'on a repéré tout en fond de fouille, qui s'est formé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, quelques milliers d'années, aux périodes où on a des périodes très très froides et où en période de dégel, on va avoir des torrents qui vont venir creuser le rocher et déposer des sédiments, des graves, des sables, des choses comme ça. Alors l'un de ces paléochenaux, à la fin de l'Antiquité romaine, a été utilisé pour y faire passer un chemin. On a enlevé les argiles, on a gratté les argiles dans ce paléochenal, et on est descendu sur les graves, sur le terrain un peu plus dur, et on l'a aménagé assez sommairement pour y faire un chemin. Et là, on est vraisemblablement à la fin de l'Antiquité, 3e, 4e, 5e siècle. C'est ce qu'on a de plus ancien. C'est pas encore tout à fait bien daté, mais c'est ce qu'on a de plus ancien. Et puis à partir peut-être du 7e ou 8e siècle, on a effectivement des sépultures qui commencent à s'installer. Alors à l'extrémité nord du chantier, on a quelques dizaines de tombes qu'on a fouillées sur quelques dizaines de mètres carrés, vraiment tout au nord du chantier, sur un petit triangle. Très grande densité de sépultures, hein, puisque oui, on a peut-être 15 ou 20 mètres carrés de cimetière et on a plusieurs dizaines de tombes. Donc on est là sur une nécropole périurbaine, pas vraiment dans la ville. C'est cette période-là, on enterre, c'est encore la tradition antique, on enterre les gens à la sortie de la ville. Donc on est en périphérie immédiate de la ville romaine, et on a donc une partie de la communauté urbaine qui se fait enterrer là. Alors on est à proximité également d'un passage important, on sait qu'il y a un pont qui correspond à une ancienne axe vers Angers qui passe à quelques dizaines de mètres à l'ouest du chantier, et donc c'est en bordure de cet axe vraisemblablement qu'on a cette nécropole qui s'installe et qui va sans doute donner naissance à un premier lieu de culte qui va être dédié à Saint-Germain. Saint-Germain est évêque d'Auxerre au 5e siècle, et très vite au 6e, 7e siècle, il est canonisé, et son nom va être donné à nombre de lieux de culte un peu partout en Gaule. On est dans ces contextes du haut Moyen-Âge, où une partie des Rennais se font enterrer à cet emplacement. Alors, au centre du chantier, on a une grande tranchée qu'on a ouvert il y a quelques semaines, qui nous ont permis justement d'avoir toute la succession de ces terrains plus ou moins anthropisés, plus ou moins naturels, et de comprendre justement la formation de cette terrasse alluviale et la formation de ce paléochenal qui passe au nord du chantier et dans lequel s'est installé le chemin antique. Et puis donc toute la partie ouest qui elle est plus proche de l'ancien pont, de l'ancien passage romain, du passage antique, est beaucoup plus riche en vestiges, beaucoup plus anthropisé. Et donc c'est là qu'on a mis en évidence cette mare avec un empierrement pour assainir les abords de la mare, dans lesquels les chevaux ont perdu leur fer, dans lesquels certains soldats ont perdu leur équipement, parce qu'ils ont dû être consignés avec corvée au campement. Et puis donc c'est dans ces niveaux-là qu'on est aujourd'hui en train de terrasser. On suit les terrassements évidemment de près. Les collègues sont devant la pelle. On passe systématiquement le détecteur de métaux à chaque coup de godet pour recueillir le moindre objet métallique dans ces niveaux-là. Et puis tout à l'ouest, on termine les relevés des coupes stratigraphiques, donc qui sont des coupes qui nous montrent la succession des remblais les uns au-dessus des autres, et en fait dans lesquels on a toute l'histoire du site. Les cordonneries sont plus récentes, hein, sans doute à partir du 13e, 14e, pour ce qu'on en a nous. En fait, à partir du 10e siècle, on sent que le milieu change un petit peu. tant qu'on a ce chemin qui circule au 5e ou 6e siècle, apparemment on est dans un contexte où on a des inondations de temps en temps, mais on est dans un contexte qui reste relativement sec. Je dis bien relativement. On a quelques périodes d'inondations dans l'année, vraisemblablement, mais le reste du temps, on est relativement au sec. À partir du 10e, on a un envasement qui se poursuit, donc ça veut dire que vraisemblablement, le niveau de la Vilaine est remonté. Ça ne veut pas dire qu'il y a un changement climatique dès cette période-là, mais on peut avoir des aménagements en aval, des ponts, des moulins, des choses comme ça qui ralentissent le cours de la Vilaine et qui font donc remonter le niveau du fleuve. On a des prairies qui sont inondées plus fréquemment et donc qui vont commencer à s'envaser. On a une végétation qui va pousser en période de décrue et qui à chaque crue va verser et va pourrir sur place. Et on a c'est ce qui forme ces niveaux noirs qu'on a sur 80 cm à 1 mètre par endroit sur le chantier. Et dans ces niveaux-là, on a des installations, on a des plaissages, donc des piquets qui sont plantés dans le sol, avec des treillages, des branchages qui sont entrelacés pour délimiter des parcelles. On a des fossés qui sont creusés, sans doute pour assainir, pour essayer d'évacuer l'eau au maximum. Et donc là, on a fait hier une série de prélèvements dans ces niveaux, pour essayer de comprendre quelle est l'occupation. Est-ce qu'on a des jardins? Est-ce qu'on a des prairies? Quelle est l'occupation de ce milieu en bord de Vilaine et en périphérie de la ville? Et c'est dans ce contexte-là qu'on a une mare qui est creusée, à proximité du passage, qui perdure. Lui, l'ancien pont romain, il a été vraisemblablement reconstruit plusieurs fois, mais il est toujours là. On a toujours cet accès qui reste un accès important à la ville du côté de l'église Saint-Germain, si vous voulez. On a vraisemblablement, dans le cadre des troubles à la fin du 10e et au début du 11e siècle, une troupe qui stationne à proximité de ce pont, qui peut-être se retranche, se fortifie, ça, on a du mal à le percevoir, mais on aménage une mare pour y abreuver des chevaux, des ânes, des mules, des bœufs, et on a en fait, nous, des dizaines et des dizaines de fers à cheval, enfin de fers à cheval, à mules, à bœufs et à ânes, du coup, que les bêtes ont perdu dans la boue. Donc par effet de succion, hein, c'est la façon dont les chevaux, enfin les animaux se défèrent. C'est pas tellement parce qu'il y a des pierres, c'est plutôt parce qu'il y a de la boue, et donc le fer reste collé au fond. Et on a retrouvé tous ces fers à cheval, mais vraiment par dizaines, qui veut dire qu'il y a une troupe relativement importante. On a également de l'armement qui a été perdu dans ces niveaux boueux. On a des éperons, on a des fers de lance, on a des pointes de flèches, on a une hache d'arme, et on a pas mal de monnaie, pas mal de monnayage, donc fin 10e, début 11e siècle. On a un mobilier assez atypique, très centré sur du mobilier militaire et aristocratique, avec de la céramique décorée également pour ces périodes-là, ce qui est assez rare. Et donc on sent bien qu'il y a une troupe qui stationne à proximité. On peut relier ça historiquement aux périodes de troubles, des conflits qui ont lieu entre les comtes de Rennes, les comtes de Nantes, les comtes d'Anjou, les Normands également, qui font encore quelques incursions. Et donc on est sur ces périodes très peu sûres, autour de l'an 1000, qui vont voir la naissance du duché de Bretagne. C'est la première fois qu'on étudie ces niveaux-là de cette façon-là. C'est vraiment un apport très 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 important pour l'histoire de Rennes et pour l'histoire de la Bretagne.
Là, c'est vraiment en fin de chantier que vous parvenez à découvrir ce type de matériaux.
Tout à fait, là, c'est vraiment une découverte de ces deux dernières semaines. Un petit peu plus tard, on a une rue en bois qui va s'installer sur pilotis, qui va venir recouvrir ces niveaux, sans doute en bordure du pont antique. Là aussi, on a des maisons qui vont s'installer, la ville s'agrandit, et pour desservir ces maisons, on va gagner un peu sur les espaces inondables en faisant une rue sur pilotis, qui est l'ancêtre de la rue Saint-Germain. Et c'est parce qu'on a cette rue, parce qu'on a ce fossé, qu'on va créer une porte au 15e siècle, quand on va construire le rempart.
Ok, ça. J'ai très bien entendu.
Quand on construit le rempart au XVe siècle, donc déjà ça va se faire en plusieurs étapes, on sait qu'il y a une première porte en bois qui est construite qui est mentionnée dès les années 1420, qui va être remplacée par un rempart en pierre avec une porte, avec le fameux portail Saint-Germain qu'on a diagnostiqué en 2009, simplement à partir des années 1444-1446. Alors à partir du moment où on a ce rempart avec un fossé, qui l'enserre, on n'est plus en zone inondable. Tout ça fait barrage aux inondations. La Vilaine peut-être d'ailleurs est plus ou moins déjà canalisée, enfin en tout cas recreusée. Et on a donc des zones qui vont être assainies. Les déblais qu'on sort du fossé qui borde le rempart au sud vont servir à assainir, à remonter le niveau également à l'intérieur de ces prairies. On va remblayer ces prairies, les assainir, et assez vite on va donc avoir une rue qui va être fixée entre la porte Saint-Germain, à l'emplacement de l'ancienne rue en bois, entre la porte Saint-Germain et l'église. On va avoir quelques maisons qui vont venir border cette rue. C'est quelques maisons dans un premier temps. Pendant tout le 15e et 16e siècle, apparemment, tout le secteur qui reste quand même assez humide, assez insalubre, va être assez peu densément occupé. On a des grandes parcelles qui sont encore occupées par du jardin. C'est assez fréquent dans les villes médiévales, même dans les villes closes. Il ne faut pas imaginer une ville entièrement construite avec des maisons les unes sur les autres. Il y a énormément d'espaces vides parce qu'on a besoin de faire rentrer des troupeaux de temps en temps. On a besoin aussi d'avoir des espaces de maraîchage, des jardins, des choses comme ça. Et en fait, la vraie transformation urbaine, la vraie densification, elle arrive simplement au XVIIe siècle. Et paradoxalement, ça correspond à l'arasement de ce rempart. Ce rempart qui a été construit au XVe siècle, il est à peine achevé, que déjà il est devenu obsolète, puisqu'on a construit une troisième ligne de défense au sud de la Vilaine, à l'emplacement actuel du boulevard de la Liberté. Et donc ce rempart qui est à l'intérieur de la ville va très vite être obsolète, il va être abattu dès le XVIIe siècle. Dans le cadre de la destruction de ce rempart, qu'on va complètement remodeler le quartier et qu'on va le densifier. Et là, ça correspond également à l'arrivée du Parlement de Bretagne, dans la seconde moitié du XVIIe. Donc on a toute une population qui vient s'installer à Rennes, qui sont les parlementaires, généralement des nobles, qui vont se faire construire des hôtels particuliers en ville. Donc nous, on a retrouvé les vestiges de l'un de ces hôtels particuliers, à l'est de la place, qui s'étend sous les immeubles actuels. Et puis on en avait un autre qui devait border la rue à l'ouest, mais qui est en dehors des limites de la fouille. Et puis on va faire une sorte de mixité sociale, si vous voulez. On va conserver quelques maisons d'habitation en bordure de la rue, qui reprennent d'ailleurs pour une bonne partie les limites des maisons médiévales. On va simplement les reconstruire avec des boutiques au rez-de-chaussée, les parties habitables au-dessus. On est actuellement 10-12 personnes sur le site, on est en fin de fouille, et donc ce sont tous des professionnels, hein, des collègues de l'INRAP. On a également un collègue du CNRS qui travaille sur les bois, donc avec qui on a passé une convention d'études, une stagiaire qui est en master professionnel à l'université de Nantes, master d'archéologie préventive. On est monté à 20 sur le site, on était jusqu'à une vingtaine présents sur le site au plus fort de la bataille.
Alors là, c'est la fin du chantier, donc à la fin de cette semaine. Vous allez retourner à votre bureau, j'imagine. C'est quoi la prochaine étape avec tous les matériaux que vous avez emmagasinés depuis le début du chantier? Quelle est la prochaine étape?
Dans un premier temps, on va trier le matériel, on va inventorier la totalité des données. C'est des dizaines de caisses, de tessons, d'os, de cuir. On a énormément de cuir, puisque donc il y a toute cette partie au 13e, 14e, avant la construction du rempart, où on a eu des tanneurs qui sont installés sur le site. On a énormément de déchets de cuir. Donc on va répertorier tout ça, on va contacter toute une série de spécialistes, de collègues qui travaillent sur les cuirs, qui sur la céramique, qui sur le métal, qui sur les os. Et on va mettre en place un plan d'études avec des priorités. On a des moyens qui ne sont pas illimités, qui sont déjà définis dans le cadre du marché. Donc on va essayer de faire au mieux avec ces moyens-là pour sortir le maximum d'informations de ces données. Donc ça va être la première étape. Puis ensuite, moi, je vais passer à autre chose parce que j'ai l'étude d'un autre site à boucler, que j'ai fouillé les deux années antérieures. ça va permettre aux collègues justement d'avancer sur leurs études respectives. Et puis dans quelques mois, en fin d'année vraisemblablement, je vais me remettre sur la fouille Saint-Germain et je vais faire la synthèse de l'ensemble des données. Données chronologiques et puis données de toutes ces études paléo-environnementales également, puisqu'on a des géologues, des micromorphologues qui travaillent sur la texture des sols qui vont nous rendre leurs études, des palynologues qui travaillent sur les pollens pour essayer de restituer le paysage autour de Rennes au Moyen-Âge et à l'époque moderne, puis voir quel est l'impact justement de l'urbanisation sur ces paysages. Est-ce qu'on a des nouvelles espèces végétales qui apparaissent, d'autres qui disparaissent? On va pouvoir documenter énormément de choses.
C'était le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Je remercie chaleureusement Laurent Beuchet, ingénieur de recherche à l'INRAP, pour son accueil, et Sandrine Lalin pour la coordination. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr.